Nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 janvier. C'est parti pour Sport Matin Dimanche, présenté par Fabien Gazot. Bonjour.
Bonjour Patrice, bonjour à tous. Et c'est donc la reprise. Après les fêtes, on se remet au sport avec un programme copieux. Les basketteuses choréziennes ont été renversantes hier soir en faisant chuter l'Amboisière. Vincent Nori y était. Les handballeuses celloises ont fait un nul hier soir face à Bergerac. Leur entraîneur Maxime Martin sera notre invité dans quelques minutes. En football, le programme est allégé en raison notamment de l'état des terrains, préservés pour la plupart. Au sommaire également de ce sport matin dimanche, Tom Minguenot arrive très en forme sur les championnats de France de cyclocross. Vous l'entendrez dans cette édition. Le trail des sentiers Bressuirais a lieu samedi 18 janvier. Dans moins d'une semaine, sur 10 et 20 km, ça va sans doute piquer un peu. Le NACO 79 course d'orientation organise un événement le week-end prochain. On en parle en détail avec Damien Mazereau, co-président et traceur des parcours. Et puis en tennis, le tournoi international de Bressuire, toute cette semaine, vous entendrez Michel Fortin, le directeur du tennis club de Bressuire.
Et si l'on jette un petit coup d'œil sur la météo, les éclaircies l'emporteront ce dimanche, même si, comme vous l'avez constaté, les températures sont froides, avec des maximales aujourd'hui qui n'excéderont pas 3, voire 4 degrés.
Sport Matin Dimanche, avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toute marque.
SMD, Fabien Gazot, on commence par le basket.
Alors il fait froid, oui, on va se réfugier dans les salles et les sports en salle pour débuter cette édition. Le basket, et ça va toujours aussi bien pour Cholet, vainqueur à Nancy hier soir en Betclic Elite, 78-71. Les Choletais sont leaders à mi-parcours à l'issue des matchs allés après cette victoire obtenue de haute lutte face à un adversaire coriace. Laisser Nancy à 71 points est une très grosse performance, souligné hier soir Fabrice Lefrançois. En Pro B, Nantes a battu Denain 97-92. Cet après-midi, Poitiers accueille Chartres en Wonder League. Cet après-midi, l'affiche et le derby entre Angers et La Roche-sur-Yon. En National 2 féminine, on avait coché sur le calendrier cette confrontation entre Choret et l'Amboisière Martin, leader de la poule avec Basket Land. En cas de victoire, Choret pouvait recoller à son adversaire du jour, et c'est ce qui s'est passé après une première mi-temps très favorable aux Angevines, irrésistible dans le premier quart. Les Choresiennes sont revenues puis ont dépassé l'Amboisière pour s'imposer 82-76. Retour sur ce match fou avec Sullivan Casalon, le coach choresien.
Rencontre qui était très mal embarquée. L'Amboisière a fait du L'Amboisière, nous ont rentré dedans et nous on n'a pas su répondre à l'impact et à la densité physique qu'elle voulait imposer. On a réussi à limiter un peu la casse à la fin de la première mi-temps et repartir au vestiaire avec 14 points. Et je pense que c'est là où on a réussi à pas flancher, parce que malgré la mauvaise mi-temps, on a réussi à limiter la casse. Et voilà, deuxième mi-temps, on a réussi, malgré un troisième carton de poussif, on a réussi à grappiller petit à petit. C'était un peu le discours à la mi-temps, c'est que j'ai remis un peu les pendules à l'heure. Les joueuses étaient conscientes de ce qu'elles faisaient sur le terrain et que c'était négatif. Et que
rouspète à la mi-temps.
Ouais, bien sûr. Après, c'est rouspété, mais dans le bon sens. C'est pour faire évoluer les choses. C'est pas pour enfoncer plus bas que terre les joueuses. C'est pour un peu les réveiller. Et c'est pas pointer une joueuse ou en particulier. C'est de pointer le groupe et d'essayer de remobiliser, parce que voilà, on a eu une déroute à Saumur. Je voulais pas connaître la même chose à domicile avec autant de ferveur. Et voilà, les félicitations aux joueuses, parce que moi sur le côté, je suis un peu un pantin, je peux pas faire grand chose. Et c'est elles qui méritent cette victoire, parce que sur la deuxième mi-temps, elles ont réussi ensemble à faire le nécessaire. Je les ai guidées, mais c'est elles sur le terrain qui font le plus dur. Donc félicitations à elles.
Trois éléments se sont détachés hier soir dans l'effectif choresien. Flavia Rabot qui a enchaîné les tirs primés, de même Kines Gribi et évidemment la capitaine Fatou Dieng à la manœuvre, ravie du scénario.
La magie du basket, ça dure 40 minutes, on est mené de 20 points, il nous restait 20 minutes à relever la tête, à mettre un peu d'amour propre dans le match, et c'est ce qu'on a fait. On s'est battu sur tous les ballons, on a défendu dur, on a fait des stops et on est revenu. Et ça, c'est la marque d'une grande équipe, parce que on revient de loin. On jouait à 5 il n'y a pas longtemps, après on est monté à 6, là il y a tout l'effectif, il faut que tout le monde revienne, c'est ce que je disais la dernière fois, que tout le monde puisse se remettre. On a mis du temps, mais ça commence à venir, mais là c'est l'amour propre qui a gagné ce match. On ne s'est pas affolé. on a fait confiance en notre groupe. Avant, je disais aux filles, on vit ensemble, on meurt ensemble, et là, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui.
Et à titre personnel, vous avez souffert aussi. Vous aviez une meneuse en face qui mettait beaucoup d'agressivité. On s'est dit, oh là là, Fatou, elle a un peu de mal. Et puis Fatou, elle a repris le taureau par les cornes, et c'est vous qui emmenez après.
Oui, bah après, c'est normal, je vais être ciblée. De toute façon, je vais être ciblée à chaque match, et c'est logique parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de ballons qui passent dans mes mains, mais j'ai la confiance de mes coéquipières, et on s'entraide entre nous. Comme je vous ai dit, on est unis. Et après, il a fallu que je m'adapte à l'adversaire, à la défense, à leur agressivité physique pour pouvoir trouver des solutions. Et c'est passé, donc je suis très contente.
La magie du chaudron chorazien a donc opéré hier soir pour le plus grand bonheur du président Fred Duflot. Le maintien est acquis et il n'est pas interdit de rêver alors que Choret peut aussi recoller à Basketland le week-end prochain.
Alors mathématiquement, le maintien est assuré. Et puis maintenant, on va faire match par match et on verra. Déjà, rendez-vous contre Basketland le week-end prochain pour confirmer. C'est très important. Ça va être encore un match comme aujourd'hui. Et si on confirme, on va assurer la première place. Et il peut se passer de belles choses à la fin de saison. Et on veut remercier nos partenaires, les bénévoles. C'est fabuleux.
Fred Duflot, Fatou Dieng et Sullivan Casalon au micro de Vincent Nori, qui s'est régalé hier soir avec cette soirée basket en famille. Qui plus est, je vous rappelle le score. 82 à 76. En National 2 masculine, la Esnior a battu Nantes BH 69 à 64, une victoire dans la douleur, titre nos confrères de la Nouvelle République ce matin. En pré-national féminine à suivre cet après-midi, Bressuire la Couronne. En R2 féminine, la réserve chorésienne s'est imposée à Cognac hier soir 52 à 51. Cet après-midi, en R2 féminine, le Réveil joue à Bordeaux et le Pays Argentonais à La Rochelle. En R2 masculine, le Réveil Bressuire a battu Jarnac hier soir 59 à 57. L'AS Niort, on entend avec Effre, s'est incliné à Pouzioux-Vouneuil 78 à 55. En R3 féminine, cet après-midi, Effre joue à Montamisé, le BC Cerisien à Civray. En R3 masculine, dans la poule A, Neuilly-les-Aubiers a été battu à Étré 66 à 59. Saint-Jean-de-Thouars battu par Barbezieux 71 à 75. Dans la poule B de R3 masculine, Choret s'est imposé au CEP Poitiers 87 à 71, et Effre accueille Marseille cet après-midi. On passe au handball avec la D2 féminine et celle sur Belle qui a fait un nul contre Bergerac 26 à 26. Elles n'ont rien lâché, écrivent nos confrères du Courrier de l'Ouest, soulignant la force de caractère des Celloises. L'entraîneur de Celle est avec nous ce matin. Bonjour Maxime Martin.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette force de caractère qui vous a permis de faire un nul hier soir ?
Oui, oui, c'est un nul qu'on a arraché vraiment à la dernière seconde, c'est le cas de le dire, parce qu'on égalise juste à la fin. Je regrette juste notre manque de sérieux par moment qui nous a fait perdre quelques ballons importants. Mais en tout cas, on est mené de 4 buts à 5 minutes de la fin et on arrive à revenir, donc c'est positif.
Alors, un nul contre Bergerac. Sur le papier, on peut estimer que c'est une contre-performance puisque Bergerac est en fin de tableau, était même lanterne rouge, je crois, avant le match. Mais dans le contexte actuel, c'est complètement différent. Vous nous expliquez dans le contexte dans lequel se trouve votre club actuellement ?
Oui, alors déjà, pour nous, c'était un match de reprise après la longue trêve internationale. La semaine dernière, le championnat des deux avait repris, mais nous, on était exempts. Donc, on manquait clairement de rythme. Et en plus, on a eu une trêve compliquée parce que nos deux gardiennes titulaires se sont blessées. Donc, on avait deux jeunes dans les buts, même s'il y en a une qui vient d'arriver en prêt. Et puis, on a notre meilleure buteuse qui, pour des raisons familiales, a dû rentrer dans son pays, en Tunisie. Donc, ça faisait beaucoup, beaucoup de changements pour cet hiver. Donc, oui, sur le papier, ça semblait déséquilibré, mais on savait qu'on allait avoir un match difficile parce que nous, on manquait de repères et puis Bergerac allait venir complètement décomplexé. Et ils nous ont bousculé, on s'y attendait. Malgré tout, tous ces changements et toutes ces péripéties cet hiver, on aurait dû être un peu plus appliqué et un peu plus concentré par un moment.
Alors, comment allez-vous faire ? Vous allez recruter ? Vous allez attendre que les blessés reviennent ? Comment vous allez gérer cet effectif alors qu'on est aller seulement au tiers du championnat. Finalement, il reste encore évidemment beaucoup de rencontres à jouer.
Oui, voilà. Si on se projette sur l'effectif et les blessures, bon, déjà, il y a deux joueuses, notamment notre demi-centre danoise Julie Pontoppidan, qui s'est blessée la saison dernière et qui va revenir là d'ici une quinzaine de jours. Mais on a déjà réussi à recruter une gardienne, une jeune qui vient du club de Brest, qui a joué son premier match hier et qui a fait plutôt un bon match d'ailleurs, mais ça reste une jeune joueuse, hein, elle est née en 2005. Et on cherche encore une arrière pour pouvoir remplacer Fado Aouiz. Mais c'est pas simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueuses disponibles sur le marché à ce moment-là. Et puis on n'a pas envie non plus de prendre une joueuse pour prendre une joueuse. S'il y a quelqu'un qui est recruté, c'est parce qu'on estime qu'elle va pouvoir nous apporter, mais pas que numériquement et aussi qualitativement. Et puis sur le championnat, comme vous l'avez dit, on n'a fait que 9 matchs sur les 26. Donc il reste encore beaucoup, beaucoup de rencontres. Malgré tout, hier, on n'a pas perdu. Je pense que c'est... Voilà, faut rester positif aussi sur le classement. Donc on continue d'être en haut du classement avec ce match nul. Et on a un déplacement qui va pas être simple non plus à Nîmes la semaine prochaine, où ça va être le même genre de match, on va être attendu et ça va être une vraie bataille.
Alors quelles sont les ambitions maintenant en ce mois de janvier? Qu'est-ce que vous avez comme perspective sur la suite de la saison?
L'objectif qu'on s'est donné depuis le début de saison, c'est d'essayer d'être dans les 4 premiers, sans s'interdire ou s'imposer, comme on veut, l'ordre dans lequel on sera, mais être dans les 4 premiers. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on est en course. Et autant il y a des clubs, hein, comme Nantes notamment, qui ont affiché clairement leur volonté de remonter cette année, etc. Nous, le club, il se reconstruit. Il y a 2 ans, il a connu une descente administrative, une rétrogradation administrative. Donc les dirigeants font un vrai travail pour restabiliser les choses. Et moi, pareil sur le sportif avec mon staff. Donc on construit, on a un groupe jeune, hein, on a 22 ans de moyenne d'âge sur l'effectif. Donc on verra ce qui se passe en fin de saison, mais l'objectif c'est de rester le plus haut possible, le plus longtemps possible, et puis on verra ce que ça donne en fin de saison.
Oui, on rappelle hein, que pour monter de D2 à la division élite, il faut avoir le statut VAP. Combien de clubs ont le statut VAP dans ce championnat D2 là?
Il y a 4 clubs qui ont le statut VAP. Donc effectivement, pour accéder, il faut soit finir premier, soit deuxième en ayant le statut VAP. Enfin, faut être, si le premier n'est pas VAP, par exemple Clermont, qui actuellement est leader, n'a pas le statut VAP. Donc si on finit deuxième, on accède.
Alors quels sont les clubs qui ont le statut VAP?
Il y a Lille, donc nous, Le Havre et Nantes.
D'accord, donc les clubs hein, qu'on retrouve quand même en haut de classement, sachant que Le Havre est... ex aequo avec Clermont, Lille 4e et Nantes juste derrière, 5e, donc on retrouve ces clubs-là. Rien n'est donc joué. Maxime Martin, vous avez pris la succession de Thierry Vincent à l'intersaison. Thierry Vincent, vous étiez son adjoint lors des précédentes saisons. Comment ça se passe pour vous à titre personnel?
Mais ça se passe bien, ça a été un changement dans la continuité. J'ai la chance que Thierry, même quand j'étais adjoint, me laissait beaucoup de place dans le travail et dans les échanges. Donc ça se passe bien parce que les résultats sont là et qu'on fait malgré tout un métier qui est guidé par les résultats. Et après, dans le fonctionnement et le travail au club, mes relations avec les dirigeants sont bonnes parce qu'elles sont faites de franchise et ça permet d'avancer. Donc pour l'instant, je vous dis, on est sur une volonté de reconstruire et de restabiliser tout en restant compétitif. Et moi, je me sens bien et épanoui dans ce projet-là.
Maxime Martin, merci à vous d'avoir été avec nous en direct ce matin dans ce Sport Matin Dimanche. Et à bientôt.
Merci à vous, bonne journée. Au revoir.
Celle sur Belle qui a fait un nul hein, hier soir en D2 contre Bergerac, 26-26 en National 1 féminine. La réserve celloise s'est inclinée face à Mérignac 22-26. Montcoutan en N2 s'est incliné à Montluçon 23-22. Un petit mot de volet pour vous indiquer qu'en élite féminine, le VBPN s'est incliné à Ilac 3-7-1. Douloureuse défaite pour les Pexinoises face à un adversaire direct pour le maintien. Le VBPN occupe désormais la dernière place dans ce championnat en National 2 masculine. Les volleyeurs Pexinois joue cet après-midi à Plaisir. Villepreux, c'est la fin de cette première partie. On marque une pause et on revient juste après. On parlera notamment football, mais pas seulement.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Sport Matin dimanche, deuxième partie, on retrouve Fabien Gazot.
En football, le programme est allégé en raison notamment de l'état des terrains préservés pour la plupart, mais en N3, Chorey s'est imposé hier soir et Fabrice Fontaine est avec nous en direct ce matin. En cyclisme, Tom Minguenot arrive très en forme sur les championnats de France de cyclocross, ça c'est cet après-midi. Le trail des sentiers Bressuirey a lieu samedi prochain sur 10 et 20 km. Le NACO 79 organise un événement le week-end prochain en Deux-Sèvres. La course d'orientation, on en parle en détail avec Damien Mazereau, co-président et traceur des parcours. Et puis en tennis, le tournoi international de Bressuire toute cette semaine, on en parle en fin d'édition.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toute marque.
Le football et la Ligue 1. Vendredi soir, Nantes a fait un nul contre Monaco 2-2. Les Canaris menaient 2-0 mais n'ont pas tenu face aux joueurs de la Principauté. On peut quand même parler de nul encourageant. Lille et Auxerre ont fait un nul 0-0. Reims a été battu par Nice 4-2. Marseille s'est imposé hier soir à Rennes 2-1. Cet après-midi, Angers joue à Montpellier. Le Havre, Lens, Toulouse, Strasbourg, Paris Saint-Germain, Saint-Etienne pour clôturer cette 17e journée. En Ligue 2, Lorient, tenu en échec par Metz, est rejoint à la première place par le Paris FC qui a battu Amiens. Dunkerque, qui a fait un nul à Pau, complète le podium. En national, Nancy, vainqueur à Nîmes 2-1, fait la course en tête devant Boulogne, qui a fait un nul à Sochaux, et Orléans, troisième, qui a battu Aubagne. En national 2, très peu de matchs. Sachez que les Girondins de Bordeaux se sont imposés à Granville sur le score de 2-1. En national 3, dans la poule qui nous intéresse, les matchs ont bien eu lieu avec un festival de matchs nuls. Chalon-La Rochezeuse 0-0. Fontenay-Saint-Philbert 1 partout. Laval et La Châtaigneraie ont fait un nul 0-0. Chorey a battu Vertoux 2-1. Au classement, La Châtaigneraie reste leader devant Chalon. La bonne OP dans cette poule très serrée. Elle est pour Chorey qui remonte à la cinquième place. Bonjour Fabrice Fontaine.
Oui, bonjour.
Alors cette victoire contre Vertoux hier soir, c'est une bonne opération hein, puisque vous recollez quasiment à votre adversaire du soir et dans cette poule très, très serrée, toutes les victoires sont évidemment très importantes. Hein.
Oui, surtout sur une entame de, j'allais dire, de deuxième partie de saison, même si on n'a pas terminé la phase aller. Comme tu le dis, on est dans une poule qui est très compliquée en termes de résultats. Chaque week-end est remis en question. On n'est qu'à 6 points du dernier Panazol. Il reste beaucoup de matchs, mais ce week-end, comme tu dis, sur la série des matchs nuls, il fallait bien commencer chez nous. Il fallait préserver cette invincibilité à domicile. Les joueurs ont mis énormément de cœur à l'ouvrage et on est ressorti de là avec les 3 points.
Alors Fabrice, hier soir, c'est en première mi-temps hein, que tes joueurs ont vraiment fait la différence.
Oui, on a fait. C'était le projet aussi, le projet de jeu. On sait que Vertoux était sur une grosse dynamique en ayant gagné à Nantes et contre Panazol sur les derniers matchs. On avait à cœur devant notre public de mettre beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. C'était pas chose simple vu les conditions sur lesquelles on travaille depuis un mois avec les intempéries, comme vous avez énoncé, l'annulation des matchs et les terrains compliqués. Néanmoins, on essaie de, sur ce début de reprise, de montrer beaucoup de valeur. Et c'est ce qui a fait la différence sur cette première mi-temps.
Ouais, je sais plus, vous avez un synthétique à Chorey?
Non. Là, ça a été très compliqué sur la semaine. On s'est entraîné sur une bande de terre entre deux terrains qui est très boueuse. Donc, avec les pluies qu'on a connues la semaine dernière, il faut combiner, il faut bricoler en attendant, travailler physiquement. Après, ça fait pas tout. Sur la durée, il va falloir trouver quand même de la constance dans notre entraînement et continuer à valoriser le contenu de match. Ça demande beaucoup de rigueur, de concentration et de qualité à l'entraînement. Ça se travaille.
Alors ton effectif, il a peu évolué hein, sur le mercato hivernal. Il n'y en a pas eu, même on en avait parlé, je crois, un petit peu en décembre. Oui. C'était pas l'objectif. Hein.
C'est ça. On a sur cette deuxième année de N3, On a été chercher des joueurs en juin. J'ai un groupe de 25 joueurs sur l'équipe première. Conséquent, beaucoup doivent se révéler, certains étaient blessés sur la première partie de saison. Je pense à Mamadou Sakho qui nous a rejoint hier soir dans l'effectif, Balamine Cissé, le défenseur, qui se sont exprimés hier après 2 mois d'absence. On a l'effectif, on a des joueurs, il faut maintenant faire confiance dans les forces vives et chacun doit s'exprimer à partir de maintenant.
Merci Fabrice Fontaine en direct ce matin avec nous. À bientôt. Bon dimanche, c'est toujours meilleur hein, quand on a gagné la veille. Forcément.
Le sommeil est plus léger.
Voilà, et profitez bien de ce dimanche, d'autant que la réserve s'est également imposée ce week-end en Coupe Nouvelle-Aquitaine, la réserve chorézienne vainqueur à Selverine dès vendredi soir hein, sur le synthétique de Selverine. Avenir 79 n'a finalement pas joué contre Poitiers. Le match a été remis cet après-midi au 6e tour de cette Coupe Nouvelle-Aquitaine à suivre. Aubin Hortet, Saint-Sauveur, on en reparlera d'ailleurs dans Sport dimanche dernier. À partir de 18h en Régional 1, les clubs de Sévrien n'ont pas joué. Thouars-Noailles-Aubier a été reporté, de même que Bressuire-Ile. Retenez quand même que Fétia s'est imposé à Neuville 4-3. Le nul entre Rochefort et Cozes 0-0. Quelques matchs en retard ont pu se disputer, notamment dans la poule C de R3. Niort, les Chamois se sont imposés 6-0 contre Matin. Saint-André Cubzac qui sera un adversaire pour la montée pour les Chamois a étrié le Pays Mélois hier soir 7-0 cet après-midi. Saint-Florent joue à Cognac et puis dans la poule sud de D2, Parthenay doit accueillir cet après-midi la Venise Verte et c'est tout pour le football.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
On passe au ballon ovale.
Oui, ballon ovale avec cet après-midi la Champions Cup pour les Rochelais. Vous y serez peut-être dans un stade de Flandre à nouveau à guichet fermé. Comme d'habitude, La Rochelle accueille Leinster, donc cet après-midi, 3e journée de Champions Cup à Niort, en National 2. Niort reçoit Espinassou, le club de Grolet, et puis en Fédéral 3. Vous avez à l'affiche Parthenay, Cadojac et Choret qui jouent au stade Bordelais hier en Régional 3. Saint-Mexant a battu Ruffec 29-13. Pas de match pour le COB 79 qui devait recevoir la Tremblade, mais la ville de Bressuire a pris un arrêté pour interdire la pratique sportive sur les terrains enherbés.
Allez, on change de discipline et Tom Magno peut nourrir des ambitions sur le championnat de France de cyclo-cross.
Le cycliste originaire des Deux-Sèvres peut espérer une bonne place cet après-midi à Pontchâteau sur un circuit qu'il connaît et qui peut lui convenir. Le Forcitain d'origine n'a pas préparé spécifiquement les cyclo-cross, mais Tom Magno qui évoluera cette saison sous les couleurs de Laval sur la route Sancerre pour sa préparation de la saison sur route justement, saison qui débutera dans quelques semaines. Tom Magno.
C'est clair, c'est ma préparation pour la saison de route, mais tout se passe bien. Les dernières courses ont été bonnes, j'ai fait des bons résultats, j'ai réussi à battre des coureurs qui étaient capables de faire des top 10 en Coupe de France. Donc j'arrive avec de l'ambition pour le championnat de France sans pour autant avoir vraiment d'objectif, quoi. Vu les sensations en ce moment, je pense que je peux être entre 5 et 10e si vraiment tout se passe bien. Ces places-là, j'en suis capable.
Ce circuit de Pontchâteau, est-ce qu'il te convient en général hein, tu connais déjà un peu?
Oui, je l'ai fait 2 fois. C'est un circuit que j'aime bien, qui répond à mes qualités que j'ai grâce à la saison de route. Donc c'est un circuit assez roulant, physique. Donc ça me correspond bien. Après, bon, vu le temps en ce moment, il va falloir voir les conditions. Mais si c'est gras, ça me dérangera pas, au contraire. Comme c'est dans l'herbe, dans les chemins, on dépend beaucoup de la météo. Et puis d'une journée à l'autre, ça peut changer aussi en fonction du vent, si ça sèche le circuit ou pas. Les conditions sont très changeantes et on n'a jamais les mêmes de week-end en week-end.
Et c'est l'intensité que tu travailles sur ces cyclocross alors que tu fais beaucoup de volume sur la route. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis ça reste aussi un plaisir. J'aime faire des cyclocross, donc je souhaite en garder tous les hivers, en faire un petit peu. Et c'est vrai que ouais, c'est un bon entraînement, on va dire, pour préparer la saison de route. C'est des intensités, des efforts qu'on n'est pas forcément capable de refaire à l'entraînement quand il fait froid l'hiver. Donc c'est très bien comme ça. Ouais.
Alors la saison de route, elle va bientôt débuter également sous le maillot de Laval. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais. J'ai changé d'équipe. On a eu plusieurs week-ends de stage. Pour l'instant, tout se passe très bien. Il y a une bonne cohésion. On a un bon groupe. Le club a beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de recrutements, beaucoup de changements. Donc, je pense qu'on part tous sur une nouvelle dynamique et je pense que l'année va être très bonne.
Les premières courses que tu vas effectuer sur route, c'est lesquelles là?
Ça sera l'Essor Basque le premier week-end de février, donc le 1er et le 2 février.
C'est important de bien démarrer la saison pour se mettre dans de bonnes conditions, de bonne dynamique, hein, surtout enclencher une bonne dynamique. Hein.
Oui, c'est ça. Et puis, le premier gros objectif va vite arriver avec la première manche de Coupe de France le 22 février à Aix-en-Provence. Donc, faut commencer l'année tout de suite dans la bonne dynamique.
Tom Minguenot qui dispute donc cet après-midi le championnat de France de cyclocross. Et ça se passe du côté de Pontchâteau.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Athlétisme avec les championnats départementaux de cross ce dimanche à Échiré sur une organisation du stade de Niortais. Les premiers départs seront donnés à partir de midi sur les courses cadets, notamment cadets juniors. Le dernier départ sera lui donné à 14h45 sur le cross long sur un terrain sans doute très gras, mais les amateurs de cross sont habitués. 250 athlètes sont attendus aujourd'hui à Échiré.
Allez, le trail des sentiers bressurés a lieu le week-end prochain.
Sur 10 et 20 km, et à l'instar des corridas de Courlay et Magné fin 2024, il devrait y avoir du monde. Si l'on se fie aux inscriptions déjà enregistrées par le SBAC, sachant que le PPS, Pass Prévention Santé, n'oblige plus à disposer d'un certificat médical pour participer. Une simple validation en passant par le site de la fédération permet en effet de s'engager sur les courses à pied, ce qui simplifie les démarches. Philippe Soulard est l'un des dirigeants du SBAC. Il est au micro de Laurent Guichetot.
Les inscriptions viennent à flot presque par rapport aux autres années. Et donc je pense que c'est lié au parcours prévention santé qui libère de la place pour tous nos non-licenciés. Comme les années passées, on reste sur le même schéma de deux parcours, deux distances, une de 10 km environ et une de 20 km environ.
Et concernant les enfants, eux, ils sont sur une boucle un petit peu beaucoup plus courte.
Alors, tout à fait, quelque chose qui est adapté à leur catégorie et à leur classe, puisqu'on travaille avec l'UCEP, l'UXEL, et donc on parle en classe plus qu'en catégorie sur ce genre d'événement. Et c'est une boucle de 700 mètres qui est à parcourir une fois pour les uns, et deux fois pour les autres, et trois fois pour les plus grands. Alors, toutes les inscriptions se font en ligne sur le site du club, à part donc les écoles qui vont nous fournir leur liste d'inscrits.
Les animations enfants se feront à partir de 13h30. Le départ du 20 km est prévu à 14h45. Le 10 km suivant dans la foulée à 15h. Quelques évolutions vont venir jalonner les parcours, à commencer par l'absence de passage dans le Dolo que certains redoutaient, d'autant plus avec les pluies récentes. Jacques Mettet est chargé des tracés.
Sur le 10 km, nous aurons une nouveauté, une belle côte en plus, je ne dirai pas où, ça sera au coureur de la découvrir. Et puis on rentrera dans le château par une porte qui est condamnée habituellement. Donc c'est une nouveauté également, qui est située dans les coteaux. Et au niveau du 20 km, donc on utilisera la nouvelle passerelle pour la première fois sur une course. Et puis également, il y a quelques nouveautés, il y a deux belles côtes en plus également que je laisserai le soin au coureur de découvrir. On passe toujours dans le golfe, hein. Il n'y a pas de traversée du Dolo cette année, donc je tiens à rassurer certains coureurs. Et par contre, bon, ça risque d'être assez gras dans différents endroits, mais non, ça devrait être un beau parcours de trail.
Les sentiers bressurés, c'est donc samedi prochain, 18 janvier, à partir du campus des Sicaudières.
Eh bien, les mauvaises langues ont parfois du mal à situe les Deux-Sèvres sur une carte.
Et gageons que les amateurs de course d'orientation,
espérons,
qui savent très bien lire une carte, c'est les mauvaises langues, c'est aussi la mauvaise foi. Mais bref, on ne va pas épiloguer sur le sujet. Les amateurs de course d'orientation qui savent donc très bien lire les cartes sauront trouver sans problème le département sur le week-end des 18 et 19 janvier. L'association NACO 79 Niort Azimut course d'orientation, un jeune club créé en 2021 et affilié à la Fédération Française de Course d'Orientation, organise pour la première fois en Deux-Sèvres deux courses comptant pour le classement national. Ainsi, les meilleurs régionaux sont attendus sur place dans la forêt de l'Hermitin le samedi pour la première épreuve, puis le dimanche en forêt de Secondigny pour la seconde épreuve. Le rendez-vous se veut ouvert à tout type de participants. Écoutez cet entretien avec Damien Mazerot, c'est l'un des coprésidents de NACO 79.
Moyenne distance le samedi en forêt de l'Hermitin vers la Couarde, ça veut dire moyenne distance, les postes, les balises vont tomber, on va les trouver toutes les 2-3 minutes. Longue distance le dimanche, on va avoir à Secondigny, les postes vont plutôt tomber toutes les 4 minutes ou 5 minutes. Donc on a le premier jour, le samedi, on va dire entre 35 et 50 minutes de course, alors qu'on peut avoir entre 40 les meilleurs et 1h20, 1h30 de course pour la longue distance du dimanche. L'idée, c'est vraiment de tout prendre, toutes les balises qui sont proposées, mais par contre sur des circuits adaptés. Il y en a 9, y compris un circuit qu'on va vulgariser en disant petit pousset, où on va de jalon en jalon tous les 50 minutes.
Voilà, tous ces circuits pour permettre à tout le monde aussi de découvrir la course d'orientation et pas seulement s'adresser aux compétiteurs.
Voilà, totalement. Hein. Si effectivement les compétiteurs vont venir en nombre, on a l'habitude sur ces courses de se côtoyer, c'est ce qu'on appelle des circuits dits open pour tout public. Et ça, c'est une vraie spécificité de la course d'orientation. Ça vaut même pour des championnats de France. Donc c'est vraiment quelque chose où on vient en famille, chacun fait son circuit. Alors c'est vrai de manière individuelle sur une course comme celle-ci. Hein. Mais chacun a sa difficulté de circuit et repart avec un grand sourire d'avoir trouvé tous ses postes.
Alors vous êtes combien dans le club justement ?
Une cinquantaine.
Tous mobilisés, hein, j'imagine, pour cette organisation.
Les jeunes sur les courses, les adultes concentrés surtout sur l'orga. Si on peut aller courir pour certains, ça se passait. Mais voilà, 15-20 qui sont vraiment mobilisés sur l'orga. Et puis nos jeunes, même s'ils donneront un coup de main à l'installation, on les envoie courir parce que c'est l'avenir.
Alors un peu de pression aussi peut-être sur la mise en place. Hein.
On est deux traceurs stagiaires là, qui allons valider notre formation, notre diplôme hein, pour pouvoir faire des courses régionales au classement national. Et si ça l'est dès maintenant, c'est parce qu'on a un contrôleur. Hein, donc ça, c'est une grosse orga au niveau FEDE où on est vraiment accompagné. Ça veut dire que ces tracés, ils ont été anticipés hein, depuis plusieurs mois, que ce soit avec l'ONF pour les autorisations, mais aussi pour, comme vous le disiez, sur la spécificité après tel poste, comment sortir, comment attaquer le poste suivant sans ce qu'on appelle donner le poste au prochain, que ce soit pas trop facile, comment faire cohabiter tous ces circuits, comment faire tourner tout le monde dans le même sens pour gêner le moins possible la faune en plus de la flore, tout ça s'apprend, mais c'est passionnant et du coup ça donne des circuits qui sont pas mal du tout, qu'on de la gueule quoi.
Vous êtes un peu à contre-courant parce qu'à l'heure où on se passe rarement du GPS, vous êtes encore à la carte hein.
Ouais, on a la carte. Après, on est sur le numérique quand même, au sens où post-course, les personnes qui ont enregistré leurs traces avec leur montre, ils vont pouvoir se revoir jouer dessus hein, sur des applications gratuites type Bicasiut, là, qui sont très très bien faites. Et c'est un côté très ludique et surtout très intéressant en tant qu'entraîneur ou simple coureur pour pouvoir débriefer sur sa course. Et c'est ça qui est passionnant pour voir ce qu'est la course d'orientation. Faut venir la pratiquer, mais faut assister à ce qu'on appelle le débriefing. Quand il n'y a rien de plus intéressant que de voir deux coureurs qui discutent d'un itinéraire choisi, de telle à telle balise. Et l'appui numérique peut servir pour revoir ça. Mais effectivement, pendant la course, on est juste avec la carte et ça, c'est à contre-courant. Ouais.
Les meilleurs, c'est, j'imagine, quand même ceux qui sont les plus expérimentés.
Oui, oui. On a cette spécificité de courir en milieu dit inconnu. Mais plus on a été sur des terrains de jeu, plus l'expérience se fait par rapport à percevoir la carte. Et c'est vraiment le parallèle que je vois sur ma carte et la réalité du terrain, comment je vais me représenter ça. Plus je vais être en capacité éliminer des informations, retenir que l'essentiel, plus je vais être performant en tant que coureur, coureuse, et s'ajoute à ça après l'aspect entraînement physique qui joue, donc bien sûr. Alors on a tendance à dire que les meilleurs circuits sont pour les âges 21, c'est-à-dire entre 20 et 35 ans, mais on a des circuits pour tout le monde. Et puis on a pour les anciens compétiteurs dont la vue baisse, et c'est pour ça que c'est chouette, et on côtoie des personnes de 70 ans de la même manière. On va avoir une échelle qui est un petit peu grossie, avec des parcours peut-être un tout petit peu moins longs que ce qu'ils avaient, mais tout aussi difficiles, ce qu'on appelle du violet court. Donc vraiment, c'est adapté à tous.
Damien Mazereau, co-président de NACO 79, Niort Azimut, à course d'orientation qui organise donc cet événement le week-end prochain. Les inscriptions sont ouvertes sur HelloAsso. Jusqu'à ce soir, il faut ne plus tarder.
Programme très éclectique que ce sport matin dimanche, puisqu'on parle tennis maintenant, Fabien, et le tournoi ITF de Bressuire qui débute ce week-end avec les qualifications.
Et toute la semaine, les joueurs vont s'affronter dans les nouvelles salles du centre de tennis Alkena, tel qu'il a été baptisé en fin d'année dernière. Il reste encore des travaux à effectuer sur l'ancien complexe, mais déjà les conditions d'accueil sont bien meilleures pour ce tournoi international. Michel Fortin, le directeur du TCB, savoure.
Les joueurs découvrent au fur et à mesure qu'ils arrivent les installations et vraiment ils sont unanimes, c'est magnifique quoi. Donc ouais. Là on va terminer, donc ce week-end on termine des pré-qualifications là, qui va attribuer 3 wildcards pour entrer dans les qualifications internationales qui vont débuter dès dimanche matin.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur le niveau du tournoi cette année au vu des engagés?
Le niveau cette année est assez fort puisque le premier joueur est un Américain qui est classé 340 à l'ATP. Donc il y a une densité et le dernier du tableau est 600 à l'ATP. Donc il y a une homogénéité dans les classements qui est intéressante.
Alors quels sont les joueurs particulièrement à suivre? Alors je pense plutôt aux joueurs français éventuellement.
Voilà, ben cette année il y a la particularité, c'est qu'on a deux joueurs de l'équipe de nationale, de notre équipe professionnelle, qui vont participer aux internationaux. Donc il y a Monsieur Alexis Gauthier et Monsieur Malige Mahé, qui est l'ancien vainqueur de l'édition précédente. Donc il y aura deux joueurs bressuirais à suivre sur les cours. Le calendrier faisait qu'ils pouvaient participer à cette édition. Donc pour nous, on va pouvoir encourager ces joueurs. Et à noter aussi que cette année, la particularité, c'est qu'il y a 3 Américains dans le tableau. Il fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'Américains sur les tournois.
Alors comment ça s'explique?
C'est une question de date. C'est vrai que l'année dernière, il y avait une paire américaine qui avait gagné le tournoi double. Donc certainement qu'ils ont dû un petit peu parler autour d'eux. Et ce qui fait que cette année, il y a une belle délégation américaine.
Alors un mot sur la journée des enfants. Traditionnelle, le mercredi, elle est encore maintenue cette année, j'imagine.
Bien sûr, hein, c'est un moment important pour les enfants. C'est vrai que les enfants du club et du département, ça leur permet de découvrir un petit peu ces joueurs, de connaître un petit peu leur vie, de pouvoir récupérer un petit autographe, enfin voilà, de faire une petite photo et de garder un excellent souvenir et que pour eux, ça les prolonge dans la fin de saison, quoi.
Les nouvelles installations facilitent l'organisation du tournoi, c'est mesurable?
Ah, tout à fait, les joueurs, surtout au niveau spectateur. Les gens vont pouvoir venir assister aux rencontres dans les tribunes, sans, surtout qu'il y a une semaine un petit peu froide. Là, on s'installe dans les tribunes et on est vraiment super pour regarder tous les matchs et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est des conditions d'accueil qui sont vraiment superbes.
Ouais, contrairement au passé, on peut enlever le bonnet et les gants. Hein.
Exactement. Et puis, on n'a plus nos gros chauffages qui étaient là. Mais là, on peut sans problème enlever les gants et les moufles.
Bien. Alors, les matchs toute la semaine et les finales, elles sont prévues quand exactement?
Alors, les demi-finales donc, sont le samedi 18 à partir de 15h et le dimanche 19, mais la finale à partir aussi de 15h.
Michel Fortin, le directeur du tennis club de Bressuire, vous savez tout sur ce tournoi international futur, ne pas manquer cette semaine.
Merci d'être sur Colline, Sport Matin Dimanche de ce 12 janvier, vous avez été présenté par Fabien Gazot. Merci beaucoup Fabien, on se retrouve ce soir à 18h pour SDD.
Ouais, 3 rendez-vous, 18h, 18h30, 19h pour vous donner tous les résultats du week-end. Alors il y en a sans doute un peu moins de résultats à vous donner que sur d'autres week-ends, mais ne manquez pas les rendez-vous. Ce sera évidemment à suivre cette fois-ci avec David. D'ici là, la rediff, Patrice, à 13h, et le podcast à retrouver sur notre site internet dans quelques minutes. Bon dimanche, à tout à l'heure.
Le site internet colline-laradio.fr. Merci beaucoup Fabien, bon dimanche, à ce soir 18h.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.